France Inter.
Aujourd'hui, Exoplanète, 30 ans à la découverte de nouveaux mondes, raconté par
Guillaume Embrard, directeur de recherche au CNRS, donc chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris et à l'Observatoire d'Haute-Provence.
Et Hervé Cottin, professeur à l'Université Paris-Est-Créteil et chercheur au Laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Le 6 octobre 1995, à Florence, deux astronomes suisses montent sur scène devant un parterre de chercheurs. Michel Mayor, professeur à l'Université de Genève, et son doctorant Didier Queloz ont l'air presque incrédules. Ce qu'ils s'apprêtent à annoncer va bouleverser l'histoire de l'astronomie. Depuis des siècles, les humains lèvent les yeux vers le ciel en se demandant si nous sommes seuls. Et les philosophes grecs parlaient déjà de la pluralité des mondes. Mais au XXe siècle encore, la plupart des astronomes pensaient notre système solaire unique parmi les 200 milliards d'étoiles de la Voie lactée. Et pourtant, ce 6 octobre-là, tout bascule. Michel Mayor et Didier Queloz annoncent avoir détecté la première planète située hors de notre système solaire. Une planète invisible mais bien réelle, baptisée 51 Pegasi b, en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil à 50 années-lumière d'ici. Cette découverte est le résultat d'une patience obstinée, plus de 10 ans à observer des étoiles une par une et à chasser d'infimes vibrations dans la lumière. Et un jour, un signal revient, périodique, parfait, une planète géante de la moitié de la masse de Jupiter qui tourne autour de son étoile en seulement 4 jours terrestres. Une orbite impossible, c'est une énigme qui défie les modèles, une Jupiter chaude, première d'une longue lignée. À Florence, le silence du colloque en dit long sur la découverte et puis la nouvelle fait le tour du monde. Le New York Times titra « Deux observations d'une planète autour d'une étoile similaire au Soleil remettent en question l'idée selon laquelle la Terre serait unique ». 30 ans plus tard, l'annonce de 51 Pegasi b reste un séisme. Elle a ouvert la voie à plus de 6000 exoplanètes découvertes depuis, des mondes de glace, de fer, de gaz ou d'eau qui tournent autour de leur soleil lointain. Et avec elle, une nouvelle question est née. Parmi ces milliards de planètes, certaines portent-elles la vie ? C'est cette histoire que nous allons vous raconter.
The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2019 Nobel Prize in Physics pour moitié à James Peebles et pour l'autre moitié à Michel Mayor et Didier Queloz pour la découverte d'une exoplanète en orbite autour d'une étoile de type solaire.
Voilà, puisque nous sommes dans la semaine des Nobel, là c'était en 2019, annonce donc du prix Nobel de physique. Guillaume Embrard et Hervé Cottin, bonjour. À tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Il y a donc 30 ans tout juste, 6 octobre 1995, la découverte majeure qui allait bouleverser l'astronomie. Première détection d'une planète extrasolaire, c'est-à-dire située en dehors de notre système solaire. Et 30 ans plus tard, la recherche en exoplanète et en exobiologie n'en finit pas de remplir son filet de nouvelles connaissances et de nouvelles planètes très différentes les unes des autres. Et à l'occasion de cet anniversaire, vous publiez tous les deux un ouvrage. Guillaume Embrard d'abord, Extraordinaire planète extrasolaire, c'est aux éditions Berthe et Jean. Et Hervé Cottin, un livre collectif, le grand livre de l'exobiologie, dirigé avec Muriel Gargaud, c'est aux éditions Belin. On fait donc un petit retour avec vous sur ce mois d'octobre 95, lorsque Mayor et Queloz détectent donc cette exoplanète. Est-ce que vous travaillez déjà sur place à l'époque, Guillaume Embrard ?
Alors non, moi j'étais un jeune étudiant, en fait je m'en souviens bien, parce qu'il y a 30 ans, c'est justement là où j'ai commencé à étudier l'astronomie à l'université. Enfin, j'en faisais un petit peu avant, j'avais eu quelques cours, mais là, à partir de la rentrée septembre 95, j'ai étudié à plein temps l'astronomie, l'astrophysique, etc. Ouais. Donc, non, j'étais pas sur place à l'Observatoire d'Haute-Provence, encore moins en Florence, j'avais pas la chance d'aller dans les conférences scientifiques à ce moment-là. Mais je me souviens bien que nos professeurs en parlaient, qu'il y avait un gros résultat, etc. Donc, je l'ai pas suivi de très près, j'ai suivi un petit peu par correspondance.
Ouais.
Par le biais de nos professeurs.
Donc ça reste une date marquante quand même pour vous dans votre mémoire.
Oui, pour l'annonce là, mais enfin je dirais même En fait, ça l'est plus parce que je commençais à faire de l'astrophysique. À ce moment-là, je ne savais pas que j'allais travailler sur les planètes extrasolaires. D'ailleurs, au début de ma carrière, après de mes études, j'ai fait une thèse. Donc, après cette année, c'est ce qui correspond à la deuxième année de master actuellement. Ouais. C'est là où on commence une thèse. Donc, on se met à travailler 3-4 ans sur un sujet scientifique particulier. Moi, je n'ai pas travaillé sur les planètes extrasolaires. Je travaillais sur un autre sujet. C'est par la suite que je me suis mis à travailler sur ce sujet.
Et vous, Hervé Cottin, où est-ce que vous étiez il y a 30 ans ?
Alors, moi, je faisais mes études aussi. Alors, des études de chimie de l'environnement. Donc, j'étais assez loin du monde de l'astronomie et de l'astrophysique, mais je me souviens, alors je ne saurais pas dire quand exactement et dans quel enseignement, mais d'un professeur à l'université qui avait dit « Ah, de toute façon, on sait bien que... » Il faut toujours se méfier de ce « on sait bien que... » C'est pas possible qu'il y ait des planètes autour d'autres étoiles. Et je me rappelle d'avoir ressenti une déception immense en me disant « Ah bon, c'est quand même dommage que ça ne soit pas possible. » Et puis, bon... Voilà, l'histoire et la science progressent, et maintenant on en a 6000, 7000.
C'est ça, et il y en a beaucoup plus évidemment.
Oui,
c'est
celle
qu'on a découverte pour l'instant, mais Guillaume Hébrard, c'est incroyable qu'on puisse penser ça, non ? Quand on retrace les choses un peu, non ?
Il y avait des arguments aussi pour ça, mais enfin, je pense que tous les
scientifiques... Comment on pouvait imaginer que dans l'immensité du cosmos, il n'y ait pas d'autres planètes que les nôtres ? C'est quand même dingue, non ?
Ouais, mais pourquoi pas en fait, c'est quand même tant qu'on l'avait pas détecté une planète extrasolaire, on pouvait pas débuter l'exoplanétologie, l'étude des planètes extrasolaires, des exoplanètes, et la question de leur existence, elle pouvait vraiment être répondue seulement par la détection. Là, en fait, parce que j'imagine qu'à un moment aujourd'hui, on va parler de la vie extraterrestre, mais on est un peu à la même position. On a l'impression que c'est quand même très raisonnable d'imaginer que la vie existe ailleurs dans l'univers, autour d'autres planètes, etc.
Ouais, mais on n'en a aucune preuve.
Bah, en fait, on n'en sait rien. Et même, on a presque des arguments. Quand on regarde les autres planètes dans le système solaire, on ne voit pas de vie. Alors, sur Terre, il y en a partout de la vie, mais dans les autres planètes, il n'y en a pas. Donc, ce n'est pas clair. Actuellement, la vie, on ne sait pas si ça existe ailleurs, à part sur la Terre. Et bah, à l'époque, on se disait, oui, c'est raisonnable de penser que les planètes existent autour d'autres étoiles que le Soleil, mais on n'était quand même pas sûr.
Hervé Cottin, qu'est-ce que cette découverte donc, d'exoplanètes a changé dans la vision qu'on a du cosmos pour vous ?
Elle a ouvert en fait une fenêtre sur un horizon qui est quasiment infini. C'est-à-dire que quand on réfléchissait à la vie ailleurs que sur Terre, on avait, dans le système solaire, on avait Mars. Alors on se pose toujours des questions, légitimement, de la vie sur Mars. On a commencé dans les années 2000 à se dire « Ah, il y a des océans sous la surface de satellites, de planètes géantes, de l'eau liquide, peut-être de la vie. » Et puis après, on est face à l'infini. Ouais. Et les exoplanètes, elles nous permettent justement de questionner cet infini et de questionner aussi une multiplicité de cas de figure. Et si la vie apparaît ailleurs, c'est quand même probablement dans des conditions qui sont relativement particulières. Et quelques cas d'études dans le système solaire ne sont pas suffisants.
Ouais.
Donc, les exoplanètes nous permettent justement de nous projeter et de pouvoir peut-être se dire qu'on aura un jour une réponse à cette question de la vie ailleurs que sur la Terre.
On va y revenir évidemment au cours de l'émission. Guillaume Hébrard, 51 Pegasi B, donc cette première exoplanète là, en 95, elle était quand même très surprenante pour les, les astronomes.
Quelque chose auquel on aurait pu s'attendre, c'est on va se dire, les premières planètes qu'on va trouver, elles ressemblent à peu près à ce qu'on a dans le système solaire. Et
pas
en fait,
du
pour la première, c'est pas du tout le cas. Et même la suite, en fait, la plupart, donc on en connaît plus de 6000 actuellement, la plupart sont très différentes de celles qu'on connaît.
Qu'est-ce qui était le plus surprenant avec 51 Pegasi B ?
Alors donc, c'est une planète, comme vous l'avez dit, c'est une planète à peu près, enfin, la moitié de la masse de Jupiter, mais quasiment la masse de Jupiter, à peu près la même taille sans doute. Donc une planète géante gazeuse, une gigantesque atmosphère avec probablement un noyau solide au centre, comme notre Jupiter. Mais la grosse différence, c'est que nous, notre Jupiter, elle met 12 ans à faire le tour du Soleil. Celle-là, elle met 4 jours, un tout petit peu plus que 4 jours. Donc, elle est vraiment très, très proche. Donc, on a appelé ça des Jupiters chauds, en effet, parce qu'évidemment, très proche de leur étoile, elle reçoit beaucoup d'énergie. Par la suite, on a pu mesurer la température de l'atmosphère de ces planètes. C'est au-delà de 1000 degrés. Et le gros problème, c'est que, avec les modèles de l'époque et les modèles toujours aujourd'hui, on ne peut pas former une planète géante si proche de son étoile.
Donc, elle reste totalement mystérieuse.
Alors, non, parce qu'on a évolué quand même, d'ailleurs, assez vite après.
Elle a une mécanique qui est quand même très étrange, toujours.
Oui, mais enfin, on a fini par comprendre, en fait, assez vite. En fait, le modèle qui est favorisé maintenant et qui est assez clair, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le mettent en cause, c'est de penser que les planètes géantes se forment loin de leur étoile.
Ouais.
Et par la suite, elles migrent, ou en s'éloignant, ou en se rapprochant. Et donc, il y en a un certain nombre qui se rapprochent et qui deviennent des Jupiters chauds. Mmh. Et ça, des personnes le proposaient même avant la détection de 1995 pour le système solaire.
Ouais.
Et maintenant, maintenant, ça fait... Avant la migration, certaines personnes en parlaient, on les écoutait, voilà. Maintenant, ça vient de réalité de personne d'imaginer, de proposer un modèle de formation, d'évolution d'un système planétaire, y compris le système solaire. sans prendre en compte la migration, c'est-à-dire que les planètes changent de position sur de longues échelles de temps, évidemment, leur distance par rapport à leur étoile hôte.
On va écouter la voix de Michel Mayor, donc l'un des deux prix Nobel, l'un des deux co-découvreurs donc, de cette première exoplanète. On peut d'ailleurs le saluer parce qu'il est chez vous en ce moment, à l'Observatoire de Haute-Provence.
Exactement. Toute cette semaine, on a un colloque international. D'ailleurs, je peux en parler. Ce soir, Michel Mayor fera une conférence publique dans la ville de Fort-Calquier à 18h ce c'est soir. Ça. Donc, ne la manquez pas. C'est très intéressant donc, d'écouter Michel Mayor en conférence.
Amis provençaux, ne manquez pas ce rendez-vous ce soir. On l'écoute toujours autour de ce prix Nobel en 2019.
On vous emmène à la recherche des exoplanètes autour de certaines étoiles de la Voie lactée, les plus proches du Soleil. On n'avait aucune idée si c'était le début d'une histoire ou c'était un objet exceptionnel qu'on trouve comme ça. Et en fait, c'est seulement après, quand d'autres exoplanètes ont été découvertes, qu'à ce moment-là, on s'est dit, voilà, on démarre dans une longue histoire.
Voilà, une longue histoire qui se poursuit, évidemment, extraite d'un documentaire Alpes Express sur France 3 en 2019. Hervé Cottin, l'idée d'autres mondes, l'idée qu'il y a d'autres planètes précisément, ça a toujours fasciné l'humanité. Pourquoi, au fond, cette question nous a toujours obsédés ?
C'est vrai qu'on se rend compte que ça fascine beaucoup de monde, cette question de savoir s'il y a des extraterrestres. Alors, ça, l'imagination humaine foisonne d'exemples dans la littérature, dans les films. Pourquoi ? Je pense que ça, sans doute, répond à un besoin de trouver un interlocuteur. Alors, on n'est pas seul dans l'univers, dans le sens qu'il y a l'espèce humaine et il y a une foison d'autres espèces vivantes sur la Terre. Mais en général, ce qu'on imagine dans une rencontre avec des extraterrestres, ça serait avoir un peu des alter-ego, des formes de vie qui auraient évolué de manière proche, peut-être souvent ce qui fait plus rêver en avance, c'est-à-dire qu'ils pourraient nous donner un peu des trucs et des clés pour peut-être nous sortir de nos ornières, de notre évolution humaine à nous. Mais en fait, pour moi, une vie extraterrestre, c'est trouver une bactérie ou l'expression de l'activité d'une bactérie, ça serait déjà extraordinaire, parce que nous, humains, on n'est pas, en termes de fonctionnement biochimique, on n'est pas beaucoup plus compliqué que la moindre des bactéries qui pullulent tout autour de nous. Alors ça peut sembler être un coup porté à notre fierté, mais on est juste une solution de l'évolution.
Encore une blessure narcissique, finalement.
Peut-être. Hein. Je suis désolé si je blesse certains de nos auditeurs et de nos auditrices. Mais en termes d'évolution, on est un chemin.
Oui.
Sur lequel je ne suis pas mécontent d'être humain, rassurez-vous. Mais on est un chemin parmi des milliards. Et donc, peut-être qu'on se sent seul sur la Terre et qu'on aurait envie d'avoir une altérité à l'être humain.
Guillaume Hébrard, votre livre débute avec les philosophes antiques et puis Giordano Bruno un peu plus tard. Pourquoi est-ce que vous revenez si loin dans le temps pour parler d'exoplanètes, justement ?
Pour montrer que c'est une question qui se pose depuis longtemps. En fait, la question de la multiplicité des mondes, c'est une question qu'on se pose depuis toujours. Et dans le cas de Giordano Bruno, il me semble que Giordano Bruno, c'est le premier vraiment, ou l'un des premiers en tout cas, à le concrétiser sous forme de planète extrasolaire. Il n'utilise pas le terme, mais en tout cas, Giordano Bruno, dans notre civilisation, c'est le premier à avoir compris donc, que les étoiles qu'on voyait la nuit, c'était des astres semblables à notre Soleil, donc une grosse boule d'hydrogène qui émet lumière, chaleur, énergie, sauf qu'elles sont beaucoup plus loin, évidemment, on ne ressent pas la chaleur des étoiles parce qu'elles sont trop loin. Et il avait pris également, il avait adopté le modèle héliocentrique, suivant lequel les planètes donc,
tournent autour du Soleil,
et notamment la nôtre. Et donc si on prend ces deux-là, les planètes tournent autour du Soleil, les autres étoiles sont comme le Soleil. Il disait, c'est assez naturel, il disait toutes les autres étoiles ont des planètes, et il disait même, ça lui paraissait impossible qu'elles ne soient pas habitées.
Voilà, mais ça lui a coûté très cher. Hein.
Alors tout à fait, oui, il a été condamné par l'Inquisition de l'Église catholique à mort et brûlé vif en 1600 sur une place à Rome, oui.
Ouais, donc il fallait être très audacieux pour oser s'aventurer sur ce genre de piste, effectivement. Allez, on parle ensemble exoplanètes à l'occasion donc, du 30e anniversaire de la découverte de cette première exoplanète. Vous restez avec nous, Hervé Cottin, Guillaume Hébrard, et puis vous répondrez également aux messages et aux questions qui arrivent sur le site de la Terre au Carré, nos réseaux sociaux, et puis vos messages vocaux pour vous entendre directement avec l'appli Radio France.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
On s'est aperçu que ces exoplanètes n'étaient pas du tout si rares. En fait, toutes les étoiles ou presque en ont au moins une. Alors la question, tout à coup, n'est plus de savoir combien il y en a et à quoi ressemble leur orbite, mais plutôt de quoi elles se composent. Sont-elles grandes? Sont-elles petites? Faites de roches, d'eau ou de gaz? Ont-elles une atmosphère? Quelle température fait-il à leur surface? Quels sont les éléments présents dans leur atmosphère?
Extrait d'un documentaire d'Arte, le cosmos et les origines de la vie, avec la voix de l'astronome Francesco Pepe. Et nos invités Guillaume Hébrard, directeur de recherche au CNRS, Hervé Cottin, astrochimiste, pour nous parler exoplanètes. Hervé Cottin, vous le disiez tout à l'heure, on a découvert un peu plus de 6000 exoplanètes aujourd'hui, donc depuis la toute première en 1995. Il y a une diversité évidemment assez stupéfiante dans ces planètes, mais quels sont d'abord les instruments qui permettent de les détecter? Parce que repérer ces planètes autour d'une autre étoile que la nôtre, hein. Comment on y parvient en fait? Ça reste compliqué ou pas?
Alors, je pense que Guillaume pourra répondre sur la technique, parce que c'est vraiment son travail. Mais effectivement, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on met pas son œil derrière un télescope géant et on va pas voir une exoplanète autour de son étoile. Alors, on a des belles images, des représentations par des graphistes qui nous font imaginer des mondes fabuleux ou infernaux en fonction de ce qu'on voit. Mais si, en général, ce qui est observé, c'est la trace que l'exoplanète va laisser sur son étoile, sur la lumière de l'étoile ou sur la trajectoire, les mouvements de l'étoile. Donc ce sont souvent, sauf dans de très rares exceptions, des mesures qui sont indirectes.
C'est ça, on appelle ça des méthodes indirectes, Guillaume Hébrard. Donc comment ça fonctionne exactement?
Alors, il y a plusieurs types de méthodes indirectes, mais si on parle tout d'abord de celles qu'ont utilisées Mayer et Queloz pour détecter leur première planète extrasolaire en 1995, c'est la méthode, on l'appelle dite des vitesses radiales. Alors, c'est un petit peu du jargon, mais en gros, l'idée, c'est qu'on va étudier très précisément le mouvement d'une étoile et déduire de ce mouvement de l'étoile qu'il y a une planète qui lui tourne autour. Et l'analogie qu'on peut donner pour comprendre ce phénomène physique, c'est, on imagine un lanceur de marteau qui fait tourner un marteau autour de lui, et donc c'est le marteau qui tourne autour du lanceur de marteau, mais le lanceur de marteau, il subit un petit peu l'effet du marteau également, et donc il bouge un petit peu sur lui-même, et on sent bien que plus le marteau va être massif, plus l'amplitude du mouvement du lanceur de marteau va être grande. Et donc, évidemment, le lanceur de marteau, c'est l'étoile, qui est très massif, le marteau, c'est la planète, qui est peu massive, et entre les deux, il n'y a pas un filin métallique, bien sûr, mais il y a la force de gravité. Et donc la planète, l'étoile s'attirent l'une l'autre, et donc la planète, c'est surtout la planète qui tourne autour de l'étoile, mais la planète fait un petit peu bouger l'étoile, et donc ce petit mouvement de l'étoile, c'est ce mouvement-là qui a été détecté par Mayer et Queloz pour détecter la première planète extrasolaire, et depuis, il y a plus d'un millier de planètes, sur les 6000 qu'on connaît, il y en a plus d'un millier qui ont été détectées par cette méthode indirecte.
Donc les vitesses radiales, c'est ça?
La méthode des vitesses radiales, parce qu'on mesure la vitesse sur le rayon qui va de l'observateur à l'étoile.
Il y a les transits aussi, c'est ça? Une autre méthode?
Voilà, alors les transits, celle qui a permis d'en détecter le plus nombreux sur les 6000. Là, c'est une mini-éclipse, on va dire. S'il y a une planète extrasolaire qui passe juste devant son étoile, on ne voit pas la planète devant son étoile, parce que l'étoile, ça reste qu'un point. Mais ce point, on peut mesurer très précisément la quantité de lumière qui vient. Et si cette quantité de lumière baisse un petit peu, et si elle baisse périodiquement, si tous les 10 jours, ou toutes les 10 nuits plus précisément, il y a une petite baisse de la lumière, on peut dire qu'il y a une planète qui tourne en 10 jours autour de cette étoile.
Et on parle aussi de l'analyse spectrale des atmosphères. Donc ça, c'est l'autre méthode aussi, pareil?
Alors ça, ce n'est pas pour détecter une planète, c'est pour les caractériser. Parce qu'évidemment, quand on les a détectées, on veut connaître leurs propriétés. Donc le temps qu'il met la planète pour tourner autour de son étoile, sa distance à son étoile, la masse, le rayon, la taille de la planète. Et puis, on veut s'intéresser également à sa composition chimique, s'il y a une atmosphère. Et ça, une des méthodes qui est assez puissante pour faire ça, c'est quand la planète passe juste devant l'étoile, donc vue depuis la Terre, une partie de la lumière de l'étoile traverse l'atmosphère de la planète. Et en comparant cette lumière, donc spectralement, en effet, en étudiant très finement, très précisément la lumière, en comparant le moment où la planète était devant l'étoile et le moment où elle n'y est pas, la différence, ou plutôt plus précisément le rapport des deux, nous donne des renseignements sur la composition chimique de l'atmosphère, sa température, la pression, des choses comme ça.
Et ça, justement, ces analyses atmosphériques, Hervé Cottin, nourrissent parfois des espoirs, précipités même parfois. On a beaucoup entendu parler en avril dernier de la fameuse détection de diméthylsulfure sur K2-18b. Est-ce que vous pouvez nous rappeler exactement ce que c'est, ce qui s'est passé et pourquoi on s'est un peu emballé sur l'histoire?
Alors oui, K2-18b, c'est une exoplanète qui est à cheval entre ce qu'on appelle les super-terres et les mini-Neptunes. Donc on connaît son rayon, sa masse, mais à partir de là, on peut faire plusieurs hypothèses sur sa composition. Alors, est-ce qu'elle a beaucoup d'hydrogène? Est-ce qu'elle a beaucoup d'eau? Il y a beaucoup de modèles qui là-dessus, et une équipe anglaise a annoncé avoir détecté une molécule qui s'appelle le sulfure de diméthyle, CH3S, donc c'est une molécule assez simple chimiquement, et on déclarait que cette détection était probablement la signature d'une activité biologique. Pourquoi ? Parce que sur Terre, ce sulfure de diméthyle est produit par le plancton. C'est le résultat d'une activité biologique. Et alors, il y a eu tout un emballement...
Ça y est, la vie est trouvée. Hein,
oui,
c'est quasiment ça.
Hein. Et un emballement médiatique considérable et qui a été très vite battu en brèche par la communauté. D'une part, parce que la détection n'est pas vraiment solide. C'est-à-dire que, oui, peut-être qu'il y a ce sulfure de diméthyle, mais on peut expliquer ces caractéristiques de la lumière de l'étoile par d'autres molécules.
Ouais.
Donc on n'est pas sûr du tout de l'avoir détecté. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, alors moi, justement, typiquement, en tant que chimiste, je sais très bien que cette molécule, on peut la produire autrement que par une activité biologique. Et donc, même si elle est présente, cette molécule, on ne peut absolument pas dire que la seule possibilité,
ouais,
c'est que ce soit la vie. Et je sais, par exemple, depuis les années 1970, il y a eu des expériences qui ont été faites en laboratoire. D'ailleurs, mon directeur de thèse avait participé à ces expériences. On retrouve des publications qui montrent qu'on fait du sulfure de diméthyle, tout simplement en faisant des décharges électriques dans des atmosphères avec du méthane, des petites molécules sulfurées, et ça va se faire relativement simplement, de manière complètement abiotique. Et c'est juste la signature peut-être d'une soif de découverte, d'une précipitation, et je pense qu'il faut qu'on soit raisonnable et qu'on se dise « oui, c'est fascinant, oui, on a envie, mais tant qu'on n'est pas sûr, il
faut
quand même... »
Et scientifique,
serein et...
Calme et posé comme un scientifique.
Voilà. Oui.
Guillaume Hébrard, il y a une course au scoop quand même autour de la recherche de vie. En tant que scientifique, comment vous vivez ça, vous, de l'intérieur ?
Ah, bah, bien sûr, on parle beaucoup de ça, les planètes extrasolaires. On va dire que c'est l'objectif, c'est final, enfin final, je ne sais pas si final, mais le plus ambitieux, la recherche d'une forme de vie extraterrestre, c'est l'une des questions, peut-être la question la plus ambitieuse de la science. Mmh. Et en effet, l'exoplanétologie apporte des éléments de réponse. Il y a plein d'autres raisons pour lesquelles c'est intéressant d'étudier les planètes extrasolaires. Mais pour la question de la vie, enfin, je suis d'accord avec ce qu'a dit Hervé, là, il y a une course, il faut rester raisonnable. Mais alors, donc moi, j'ai pris un petit risque aussi. Dans mon livre, à la fin, je fais une prédiction où je dis à peu près quand et à peu près comment on va détecter la vie sur une autre planète.
Alors dites-le nous tout de suite, comme ça nous évitera d'attendre jusqu'à la fin.
Ah non, je raconte la fin de mon livre, vous êtes dur quand même.
Une échéance quand même, au moins.
Ouais, je disais dans quelques dizaines d'années, je ne me mouille pas, je suis assez prudent. Mais enfin, j'ai l'impression, en tout cas, aujourd'hui, on peut donner des éléments concrets pour dire comment on pourrait faire. Et ça, on a des éléments concrets, on construit des instruments qui vont permettre de le faire. Et par contre, ce qui est sûr, c'est d'ailleurs, on en discutait tout à l'heure, quand il y aura un résultat comme ça, évidemment qu'il sera énormément discuté, voire même controversé dans le milieu scientifique, parce que ce sera un résultat d'une telle ampleur, enfin, qui aura tellement de conséquences, et puis qui sera probablement un petit peu limite en termes de détection, probablement, qu'il y aura plein de débats et que ce ne sera pas...
Ça va vous occuper pendant un petit moment. Et puis les médias aussi, d'ailleurs. Hein, parce que
c'est bien.
Qu'est-ce que ça va changer, philosophiquement, au-delà même de la science, Hervé Cottin, ce serait assez bouleversant, quand même, de découvrir une trace de vie ailleurs que sur la Terre.
Alors, déjà, ça, je pense que ça mettra du temps avant qu'on soit sûr. Et probablement, pour atténuer cette impatience, il faut peut-être faire confiance aux historiens des générations futures qui diront, ah ben, finalement, ces premières détections qui nous ont amenés à conclure au bout de 10, 20, 50 ans que la vie existe, ça a été telle ou telle personne. Ça ne sera pas un on-off. Après, qu'est-ce que ça changera ? Alors, il y a quelque chose qui m'étonne. C'est que quand je démarre mes enseignements à l'université, je pose toujours, maintenant j'ai des petites interfaces qui me permettent d'interroger tout mon amphi. Donc en début de semestre, tout le monde est là, donc j'ai 200 étudiants dans l'amphi. Et je leur demande, est-ce qu'on a déjà montré qu'il y a de la vie sur Mars ? Je prends l'exemple de Mars. Et j'ai un quart de mes étudiants qui disent oui. Et quand je leur demande, je ne dis pas, je ne commande pas, et je leur demande, est-ce qu'on a déjà montré qu'il y a eu de la vie sur Mars ? Là, j'ai un tiers à la moitié des étudiants qui me répondent oui. Et alors, c'est à Créteil, maintenant je le fais en conférence grand public, j'ai à peu près toujours ces résultats qui sont qui m'étonne beaucoup parce que, en fait, c'est, je pense, l'une des grandes questions scientifiques encore, l'une des grandes inconnues qui motive énormément de chercheuses et de chercheurs. Et en fait, il y a quand même presque un quart, allez, un tiers de la population qui est persuadée qu'on a déjà détecté de la vie ailleurs. Alors, quand vous me demandez qu'est-ce que ça changera, ben, je me dis, moi, ça... Alors j'aurais envie d'apprendre plein de choses, j'aurais envie de savoir comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce que la vie est apparue, etc. Mais je me dis finalement, est-ce que les gens, la plupart de la population, ne pensent pas qu'on a détecté de la vie? Alors pas les extraterrestres qui arrivent dans leur vaisseau spatial, mais je pense que les gens vont se dire, oui, peut-être des bactéries, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Alors que...
Donc on aurait déjà assimilé le fait qu'une vie extraterrestre ait pu déjà exister?
Je pense que pour beaucoup de personnes, oui. Et aussi en menant ce raisonnement, en se disant bah, « l'univers est tellement grand
ouais. ».
Bah, oui, sans doute, mais tant qu'on ne l'a pas montré, il faut chercher.
Guillaume Hébrard, en observant des exoplanètes, est-ce que vous avez déjà entrevu, vous, un signal qui vous a fait rêver?
Ah, un signal d'une vie, vous voulez dire?
Bah, peut-être.
Alors, non, moi, dans ce que j'observe, j'ai peu de chance de le voir, donc, mais j'étais ému quand même, qui m'a fait rêver, oui, on peut dire ça. En fait, parce que donc on parle beaucoup de la vie extraterrestre, comme on le disait tout à l'heure, parce qu'évidemment c'est hyper intéressant, hyper excitant, même ça nourrit certains fantasmes, on peut dire. Mais moi, détecter des exoplanètes avec des propriétés particulières, qui sont très excentriques, qui sont très proches de leur étoile, qui sont de nature qu'on n'a pas du tout dans le système solaire, bah moi ça me fait rêver aussi, je trouve ça extraordinaire, je trouve que c'est une grande chance de... Quand on détecte ça, quand on découvre ça, on est au télescope, au fur et à mesure, avec ses collègues, on accumule les données, et puis on se rend compte qu'on a trouvé une planète, bah, on ne soupçonnait pas que ça existait, on n'a pas ça dans notre système solaire, et comme on le disait tout à l'heure, la plupart des planètes extrasolaires, on ne les a pas dans notre système solaire, donc il y a un petit côté explorateur, c'est un peu prétentieux, mais bon, on a cette prétention, je crois qu'on a fait de la recherche d'explorer, on a cette ambition en tout cas.
Et c'est quoi une exoplanète exotique alors?
Bah, par exemple, on peut en prendre une, tout à l'heure on parlait des Jupiters chauds, donc celle-là elle est très exotique parce que c'est comme Jupiter mais très proche. On a trouvé qu'ils sont Jupiter chauds de temps en temps. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont une orbite très excentrique, donc elles se rapprochent très proche de leur étoile, donc là, elles sont Jupiter chauds, et le reste du temps, elles sont très éloignées. Et donc ça et c'est un truc qui est massif comme Jupiter, donc une planète géante. Donc quand elle se rapproche en quelques jours, elle chauffe énormément, et puis après, tout le reste du temps, elle refroidit. Et donc là, il y a plein de choses hyper violentes qui se produisent dans son atmosphère, des choses qui ont déjà été détectées, mesurées, voilà, par exemple.
Une diversité de planètes, certes, mais reste à savoir si quelque part ces éléments se combinent pour donner naissance à la vie. On poursuit là-dessus. Vous publiez le grand livre de l'exobiologie Hervé Cottin. Et puis, extraordinaire planète extrasolaire, Guillaume Hébrard, vous êtes nos invités.
France Inter. La Terre au carré.
On ne pourra pas émigrer, on ne va pas envoyer des gens sur des planètes à ces distances beaucoup trop considérables. Donc le seul message qu'on doit faire, c'est sauvons cette planète, elle est quand bien. Et même Mars, faut pas, l'atmosphère sur Mars, le sol sur Mars et tout, c'est invivable. Le pire des endroits sur Terre, c'est un paradis comparé à ce qui existe sur Mars.
Il
ne
faut pas rêver alors?
Non, il faut rester ici et choyer ce qu'on a.
Choyons notre planète, le message de sagesse du prix Nobel Michel Mayor, que vous pourrez donc entendre ce soir si vous êtes en Provence. Il sera à 18h pour une conférence publique à Fort-Calquier, organisée avec l'Observatoire de Haute-Provence et puis Guillaume Hébrard, le club d'astronomie.
Le centre d'astronomie.
Donc 18h, c'est pas tous les jours qu'on a un prix Nobel dans la région, donc précipitez-vous. Nous sommes avec Hervé Cottin et Guillaume Hébrard pour parler exoplanètes. Hervé Cottin, vous qui publiez donc ce grand livre de l'exobiologie, l'exobiologie, ça s'intéresse à quoi d'ailleurs exactement?
Alors, l'exobiologie, de manière très large, c'est la vie dans l'univers. Et donc, on va penser bien sûr à rechercher la vie ailleurs que sur la Terre, mais c'est aussi s'intéresser à l'apparition de la vie sur la Terre. Parce que si on veut adopter une démarche scientifique dans notre recherche de vie extraterrestre, ben, il faut se poser la question des conditions qui ont permis à voir la vie émerger sur notre planète. Donc c'est ça nous amène à remonter dans le temps, au tout premier âge de notre planète. Ça pousse les collègues géologues dans leur dernier retranchement pour essayer de comprendre à quoi ressemblait la planète Terre il y a plus de 4 milliards d'années. Pas du tout à celle qu'on connaît actuellement, parce qu'elle était complètement chamboulée et transformée par le vivant. Et ensuite, la chimie qui a pu avoir lieu spontanément dans ces petites mares, ces océans de la Terre primitive.
Alors c'est ça, c'est la chimie du vivant, avec ce qu'on appelle les briques essentielles, finalement, à l'apparition, in fine, de la vie sur Terre. C'est quoi d'ailleurs ces briques essentielles? Qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient incontournable pour que la vie puisse naître un jour?
Alors, ce qui nous semble incontournable, quand on regarde la vie telle qu'on la connaît sur la Terre, ça va être un triptyque d'avoir de l'eau à l'état liquide, de la matière organique, c'est-à-dire des molécules qui sont construites à partir d'atomes de carbone, mais avec aussi de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, et puis une forme d'énergie qui peut venir du soleil, qui peut venir d'éclairs dans l'atmosphère, ou qui peuvent venir de réactions chimiques qui peuvent avoir lieu dans des sources hydrothermales, des petites mares chaudes. Et on pense que c'est la combinaison de ces trois ingrédients qui, au bout d'un certain temps, va conduire à ce que les lois de la chimie vont aboutir à ce que spontanément les molécules du vivant et la biochimie apparaissent.
Mais justement, est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres formes de vie fondées sur autre chose, par exemple, que de l'eau?
Alors, on peut l'imaginer, mais quand on s'intéresse en fait aux lois de la chimie, tout comme on sait que quand on va jeter une pomme en l'air, elle va retomber, la chimie, c'est pas tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que les éléments chimiques vont avoir des affinités, vont suivre des réactions. Et en fait, l'eau, ça semble quand même être le meilleur... Le suspect le plus probable, le solvant le plus probable. Je ne peux pas dire que c'est impossible autrement.
Ouais.
Mais l'eau, c'est l'une des molécules les plus abondantes dans l'univers. Donc, le solvant qui doit exister de manière le plus abondant dans l'univers. Et si on prend d'autres formes, d'autres molécules qui peuvent exister sous forme de liquide, par exemple, à la surface de Titan, il y a du méthane. Le gaz, si vous avez une gazinière chez vous, c'est du méthane, du gaz qui sort. Mais à la surface de Titan, il fait tellement froid que le méthane va être liquide. Vous avez des lacs de méthane. La chimie dans ces lacs de méthane va être très peu efficace. L'eau, en fait, a des propriétés qui va permettre de marier les molécules et permettre une diversité de réactions qui nous semble nécessaire à l'apparition de la vie.
Guillaume Hébrard, justement, c'est quoi une planète habitable au sens scientifique du terme?
Alors déjà, on peut dire que c'est un grand débat, c'est pas si clair, mais les arguments sur lesquels on s'entend généralement, en tout cas entre astronomes, parce que parfois avec les biologistes, ils pourraient avoir des avis un peu différents, d'avoir un autre éclairage. Ce qu'on entend généralement, c'est tout d'abord, il faut une planète tellurique, c'est-à-dire une planète solide à la surface de laquelle on peut marcher, ou à la surface de laquelle il y a des océans.
Donc du type de la Terre, par
exemple, ou de Mars. Voilà, qui n'a pas une gravité trop élevée. Les planètes géantes comme Jupiter, la gravité est énorme, et donc on a l'impression que ce serait difficile d'avoir la vie sur une telle planète. Et l'autre élément, on parlait de l'eau liquide un instant avec Hervé. Donc pour avoir de l'eau liquide, il faut ni être trop près de son étoile, parce que si on est trop près, l'eau s'évapore, et si on est trop loin, l'eau est gelée. Et donc cette zone-là, on appelle ça la zone habitable, qui est ni trop proche ni trop éloignée de l'étoile. Ça, cette distance dépend du type d'étoile, parce que les étoiles qui sont plus ou moins chaudes, donc si c'est une étoile moins chaude, la zone habitable va être plus proche. Si c'est une étoile plus chaude, la zone habitable va être plus loin de l'étoile. Mais ça, on sait le calculer assez facilement. Donc, il faut à la fois une planète tellurique dans la zone habitable. Donc ça, c'est une première approximation. Ouais. Et un cas typique qu'on peut donner, c'est si on regarde le système solaire, on a la planète Vénus et la planète Terre. La planète Vénus et la planète Terre, elles se ressemblent quand même beaucoup. À peu près la même taille, à peu près la même masse.
Ouais.
Bon, Vénus, c'est un chouïa plus près du Soleil que l'est la Terre, mais bon, pas tant que ça.
Sauf que le chouïa, il fait toute la différence.
Si on regarde Vénus, là, on est sûr qu'il n'y a pas de vie dessus. Enfin, on est sûr, je vais rester un peu prudent. En tout cas, il semble qu'il n'y ait pas de vie dessus. Et s'il y avait un extraterrestre qui détectait Vénus, ou si nous, on détectait une Vénus autour d'une autre étoile, on dirait, mais ça y est, on a une Terre voisine, quoi, une nouvelle Terre. Or, donc, c'est évidemment bien plus compliqué que ce que je viens de dire là.
Allez, on passe aux questions des auditeurs et auditrices. Et on va commencer avec un message de Michel qui se demande pourquoi les scientifiques s'obstinent à chercher une vie identique à la nôtre. Une autre chimie organique, une autre biochimie, une autre forme de vie sont possibles, loin de ce que conçoit le cerveau humain limité. Hervé Cottin, ça poursuit un peu ce qu'on se disait autour de l'eau. Hein.
Oui, alors, on va s'entendre sur le fait qu'on va considérer quelque chose de vivant à partir du moment où on a une structure relativement complexe qui est capable de se répliquer et d'évoluer, c'est-à-dire de changer dans sa descendance et de transmettre ce changement pour être soumis à la sélection naturelle. Donc quand je dis ça, en fait, je ne dis pas carbone, je ne dis pas eau, et j'entends bien qu'il peut y avoir des choses très étonnantes auxquelles on ne peut pas penser. Mais ces choses très étonnantes auxquelles on ne peut pas penser, en fait, on ne sait pas comment les chercher. Donc peut-être qu'on est restreint, peut-être qu'on est obtus, mais au moins on déroule une méthode scientifique qui nous permet de se dire, voilà, on a des hypothèses, on développe des techniques, des outils, on va chercher sur Mars, on va observer les exoplanètes,
ouais.
Et on aura peut-être des réponses à nos questions, sans exclure, j'exclus absolument pas qu'il puisse y avoir des formes de vie tellement différentes qu'on ne sait pas,
on ne peut même pas les imaginer
et qu'on ne sait même pas comment les chercher.
François demande, est-ce qu'un observateur extérieur pourrait détecter la planète Terre avec nos moyens actuels, Guillaume Hébrard ?
Ah oui, c'est une bonne question. On imagine un extraterrestre, regarde le Soleil, est-ce qu'il verrait ? Donc déjà, on va être un tout petit peu moins ambitieux. Avec les instruments dont on dispose là, on peut détecter sans problème, enfin il faut du temps et de l'énergie, voilà, une planète comme Jupiter autour d'une étoile comme le Soleil. Ça, on y arrive très bien, on en connaît des exo-Jupiter.
Mais parce que c'est gros, quand même.
Voilà, c'est plus gros, mais c'est plus loin aussi, donc ça met plus de temps à tourner. Une exo-Terre, oui, actuellement, on est capable de le détecter. Il faut vraiment avoir de la chance, mais on est capable d'en détecter. Et puis, l'Agence spatiale européenne va lancer d'ici peu de temps, d'ici quelques années, le satellite Plateau. Le satellite Plateau, son ambition, c'est de trouver une planète comme la Terre qui passe juste devant son étoile, qui serait une étoile comme le Soleil.
Ça va décomposer de la lumière, en fait, c'est ça des
alors non, Plateau, lui, va utiliser la méthode des transits, c'est-à-dire les mini-éclipses dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Mais une Terre, c'est un tout petit transit très ténu, et Plateau aura la capacité de détecter un transit aussi faible.
On va écouter un message vocal de Jacques.
Bonjour, Jacques Pinault ici. J'aimerais savoir ce que vous pensez du paradoxe de Fermi, si c'est bien toujours d'actualité ou si on va bientôt pouvoir parler aux extraterrestres. Et merci, bisous.
Ben bisous, Jacques et bonne route, Hervé Cottin.
Alors le paradoxe de Fermi vient d'un physicien italien, Enrico Fermi, qui discutait avec ses collègues en se disant ben, si somme toute la vie est banale, le soleil étant banal, il y a probablement des civilisations qui sont apparues avant. Et qui peuvent avoir 1000 ans, 1 million d'années, 100 millions d'années d'avance technologique sur nous. Donc en projetant l'humanité, si tant est qu'on peut la projeter sur des milliers ou des millions d'années, ces civilisations auraient voyagé et seraient déjà venues nous contacter. Et donc, il disait, où sont-ils ? Alors, et donc, le paradoxe, c'est de se dire, si la vie est abondante, ce qui est plausible, elle devrait être partout. Et donc, l'une des réponses, c'est de se dire que si elle est abondante, elle n'est pas forcément synchronisée avec nous dans le temps. C'est-à-dire qu'une civilisation peut disparaître au bout d'un certain temps. Et peut-être que c'est juste des bactéries. Et donc, ils n'ont pas de vaisseau spatial pour venir nous rendre visite.
Une question de Janie. Elle nous dit, voilà, je me rappelle avoir fait en seconde un cours en 1985 sur la première exoplanète découverte. C'était à ma classe de première. Mais peut-être n'était-ce qu'une détection. Ma mémoire me fait-elle défaut, Guillaume Hébrard ?
En 85 ?
85, ouais.
Ah non, 85, il n'y avait pas de détection de planète extrasolaire. Il y a eu quelques détections avant 95.
Ouais.
Il y a une détection en 89 d'un objet qui est confirmé maintenant. Mais on ne savait pas bien quelle serait sa masse. Et depuis, on a pu montrer que c'est en fait une petite étoile, ce n'est pas une planète. Et puis il y a quelques planètes qui ont été trouvées avant 95 autour de pulsars. Un pulsar, c'est une étoile morte, c'est un reste d'étoiles. Ce sont des découvertes très intéressantes, mais qui n'ont pas mené à la révolution qui a provoqué la détection de Mayer et Queloz en 95.
Eh bien, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Hervé Cottin, le grand livre de l'exobiologie, s'appelle « Les origines de la vie sur Terre et sa recherche ailleurs dans l'univers ». Ça, c'est aux éditions Belin Éducation. Et puis, Guillaume Hébrard, vous signez « Extraordinaire planète extrasolaire ». C'est aux éditions Berthe et Jean. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus au micro de la Terre au Carré.